בעזרת השם, בואו עכשיו לקור, סירית קור של שלום בית ולאדוקציון דז אנפן. ז'לן, ז'ראה ליספה, כתרי סובן, זה ליה. פרקו? פסקו, אין קופ מריה עם דז אנפן, l'éducation des enfants devient un sujet de conflit très souvent. Ou le comportement des enfants devient un sujet de conflit. Donc, savoir comment pouvoir aborder les choses. Premièrement, on va aborder, il y a une Gemara, il y a une Mishnah dans Avodah Zara. D'accord ? On nous rapporte là-bas l'histoire de Rabbi Eliezer ben Dourdaya. Rabbi Eliezer ben Dourdaya, c'est un monsieur qui, au départ de sa vie, on l'appelait pas Rabbi. Appelait Eliezer. Ben Dourdaya. Dourdaya, c'est quoi? D'accord? Dourdaya, Dour, c'est celui qui s'éloigne. Ça vient de l'Edarder. Ok? C'est pas en anglais, c'est pas une porte. D'accord? C'est en araméen. Donc, celui qui s'éloigne de Dieu. Daya, de Dieu. Celui qui s'éloigne de Dieu. Donc, c'est Eliezer Ben Dourdaya. Celui qui avait tendance à s'éloigner de Dieu. Il avait un très très gros problème. C'était quoi son problème? Il avait une obsession. Chaque endroit où il allait, il avait besoin d'aller avec les prostituées. Vous avez entendu de quoi il parle, le rabbin. Il parle de prostituées. Donc, de ville en ville, il allait là-bas. Et là où il y avait des prostituées, il devait payer toutes les prostituées pour aller avec elles. Grosse maladie. À un tel point que sa réputation a fini par le précéder. Et qu'il était la risée de la communauté des prostituées. Jusqu'au jour où une prostituée, après avoir terminé ce qu'il devait faire avec elle, vient et se moque de lui. Et il dit, attends, mais pourquoi tu te moques de moi? Il dit, attends, toi, tu fais partie du clan d'Israël, t'es un Yehudi. Tu passes ton temps à aller de femme en femme, à aller payer, c'est une maladie que tu as. Mais sache que ton Dieu, mais jamais ta teshuva, il va l'accepter. Le Olam Abba, mais jamais tu vas l'avoir. Tu fais n'importe quoi. Et lui, ce petit déclic-là, elle lui a dit en plus, elle est quand on interrapporte, qu'elle lui aurait dit en plus qu'il était la risée, que toutes les filles se moquaient de lui. Qu'on se moquait de lui. Il a très mal pris. À cause de cela, il est sorti dehors. On dit, là-bas, c'est rapporté qu'il a commencé à prier une montagne, une plaine, pour leur demander de prier pour lui. Et la montagne et la plaine, ils lui ont dit, attends, pourquoi nous on va prier pour toi? D'abord, on prie pour nous. Et toi, t'es responsable de tes actes. Bon. Alors après, il se met à prier la terre et le ciel. Il prie la terre et le ciel. Et la terre et le ciel lui disent, attends. La montagne et la plaine t'ont déjà répondu. Nous, on ne va pas prier pour toi. On va d'abord prier pour nous. T'es responsable de tes actes. Alors après, il se met à prier le soleil et la lune. Et le soleil et la lune, qu'est-ce qu'il lui répond? Attends, t'es gentil. On va pas prier pour toi, prie pour toi. Bref, après le soleil et la lune, et toutes les étoiles du ciel, d'accord? Et à la finale, une fois qu'il a terminé, même quand il prie toutes les étoiles du ciel, tout simplement, il se retrouve à la fin, à la finale, de se dire, attends, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et là, il commence à prier à Dieu. Il commence à prier Dieu. Et quand il prie Dieu, tout simplement, ce qui se passe là-bas, c'est une chose extraordinaire, que son âme est sortie de son corps. Il a quitté ce monde. Et là, il y a une voix céleste qui s'est élevée et qui a rapporté qu'à partir de ce jour, il faut savoir qu'il y a des hommes qui peuvent acquérir leur monde en un instant et perdre leur monde en un instant. Les hommes comme les femmes. Mais sachez que Eliezer ben Dourdaya, à partir de ce jour, il sera appelé Rabbi Eliezer ben Dourdaya, qu'à travers cette prière qu'il a adressée à Dieu, la teshuva qu'il a fait, il a été élevé dans le ciel et qu'on l'a accepté dans le ciel. C'est fou, hein? Elle est dure, l'histoire. Maintenant, moi, je vous pose la question. Le monsieur, on va être sérieux, deux minutes. Moi, je l'aime bien, l'histoire de l'Agma. C'est très poétique, très romantique, tout ce qu'on veut. Mais on est des gamins, nous. On parle avec une montagne, une plaine. Moi, je parle, voilà, on est à Eli, oui ou non? Il y a des petites montagnes et des plaines. Je leur parle, elles vont me répondre. Je leur dis, priez pour moi, elles vont me dire, d'abord on prie pour nous, après on prie pour toi. Eh, venez, je priais le ciel et la terre, je priais la lune et le soleil, ils vont me répondre. On peut se demander, qu'est-ce qu'il a pris de monsieur là? Oui ou non? Dans la Mishnah. Enfin, en plus, on parle d'un monsieur qui a un gros problème. Il n'est pas du tout religieux, il a un vice. Il passe son temps à aller voir les prostituées. Comment d'un seul coup on pourrait penser qu'il peut communiquer avec la création de Dieu? C'est vrai ou pas? C'est un gros problème. De quoi il nous parle ici? La Mishnah, il dit non. Ici, la Mishnah, il dit non. Tout ce qu'on t'a donné, c'est des exemples. Pour ne pas faire honte aux gens. En réalité, quand il a pris la montagne et la plaine, la montagne et la plaine, la montagne, c'est son père. Et la plaine, c'est sa mère. Et il est parti voir son père et sa mère. Quand il a compris que sa teshuva ne sera jamais acceptée, il est parti voir ses parents. Il leur a dit, sachez mes parents, que c'est à cause de vous que je suis comme je suis aujourd'hui parce que vous n'avez pas su m'éduquer. Les parents disent, désolé, nous on t'a éduqué comme il faut. Mon fils, t'as fait ton choix. On ne peut rien faire pour toi. C'est à toi de faire tes choix. Arrive un moment donné où un enfant, quand on l'éduque, il a appelé à faire ses propres choix. Ça peut être compliqué. Quand on voit nos enfants qui ne suivent pas le chemin, ce qu'on aurait aimé qu'ils empruntent, on n'est pas bien. Donc les parents, parfois, ils ne doivent pas forcément se remettre en question par rapport au choix des enfants. Surtout quand on parle d'un adulte comme ça. Donc ça, c'est premièrement. Donc il est parti voir ses parents. Ses parents lui ont dit non. Mais tu ne vas pas nous pour ça, on t'a éduqué comme il faut. Et ils l'ont éduqué comme il faut. Alors après, il rapportait qu'il est parti voir le ciel et la terre. C'est qui le ciel et la terre? C'est un tchérouar. C'est les gens qui ont de l'esprit, de la sagesse. Donc ses enseignants, ses rabbins, ceux qui lui ont enseigné quand il était au Talmud Torah, quand il était à l'école, etc. Il dit, c'est à cause de vous, c'est à cause de vous que j'ai pas été motivé à faire Torah au Mitzvot et que je vais rater mon Olamaba parce que vous n'avez pas su me motiver. C'est, on aime bien dire, c'est la faute des rabbins. Oui. Si moi je fais pas Torah au Mitzvot, c'est la force des rabbins. Ou la Torah, c'est pas top parce que quand on va dans les quartiers religieux, on les voit les religieux comment ils se comportent. On aime bien, d'accord? Oui ou non? Donc c'est la faute des autres. C'est jamais de la mienne. Ouais, c'est toujours la faute de quelqu'un. Je suis responsable de rien. Et les enseignants, ils disent, attends, mais nous, on a pris du temps. On t'a expliqué. On t'a enseigné. C'est toi qui as décidé d'avoir des mauvaises fréquentations. C'est toi qui as décidé de ne pas écouter en cours. C'est toi qui as décidé de ne pas venir à l'école. C'est toi qui as pris cette décision. Donc assume ton choix. Tu ne vas pas nous tenir pour responsable. Donc pourquoi tu veux qu'on prie pour toi? T'as qu'à prier toi pour toi. Alors après, il va voir le soleil et la lune. Le soleil qui représente la lumière. Et la lune qui représente les ténèbres. En réalité, les épreuves de ce monde. Les bonnes et les mauvaises épreuves de ce monde. Alors, tu sais quoi? Si c'est pas à cause de mes parents, et c'est pas à cause de mes enseignants, c'est à cause de la vie, les épreuves que j'ai eues dans ma vie. Quoi, les épreuves que tu as eues dans ta vie? Les épreuves que tu as eues dans ta vie, mais toi, tu as fait ton choix de réagir face à ces épreuves. On prend deux personnes qui vont avoir la même épreuve, elles vont pas forcément réagir de la même manière. Tu as fait un choix dans ton épreuve. Donc tu peux pas venir dire aujourd'hui que si tu n'as pas fait ce qu'il faut, c'est parce que tu as eu des épreuves dans ta vie. C'est toi qui as décidé de te renforcer en Emouna ou de t'as fait bien dans ta Emouna par rapport aux épreuves qui t'ont été soumises dans ce monde. C'est ton problème à toi. Ok. Alors à la fin, il prie les étoiles du ciel. C'est quoi? Les mazalot. La destinée. Il dit, alors, vous savez quoi? C'est pas ma faute. C'est ma destinée. C'est Dieu, il m'a mis au monde comme ça et j'étais destiné à devenir ce que je suis devenu. Il dit, attends, monsieur, ta destinée, elle est entre tes mains. Et le Ham Israël, où met à la mazal. D'accord? Il y a une histoire, il y a plein d'histoires connues. On nous rapporte tout simplement que, à travers une prière, à travers une teshuva, il y a une histoire avec Shmuel, qui était le grand de la génération. Et on voit en réalité. Tu la caches. Alors maintenant, Baruch Hashem, on voit tout simplement. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit?
Alors maintenant, on continue.
Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit par rapport à ça tout simplement que. Donc il dit, bon alors c'est mon destin, c'est ma destinée, c'est ma façon d'être, j'ai été créé comme ça. Il dit, ni ton destin, ni ta destinée, ni ta façon d'être. Tu es celui que tu veux être. Dans la vie. Tu décides qui tu veux être. C'est ni ton milieu social, ni l'éducation que tu as reçue, ni les fréquentations que tu as eues, ni les épreuves que tu as eues,
qui ont fait de toi qui tu es. Parce que à travers tout ça, tu as fait à chaque fois ton choix. Ce qui veut dire que dans le judaïsme, il n'y a pas de matarit. Quand on va voir les psychologues, on va voir les psychiatres, ils vont nous expliquer, attendez, on va analyser, on va chercher l'origine de vos problèmes. Donc forcément, il y a toujours le phénomène de cause à effet. Mais en réalité, ce que doit comprendre un psychologue ou un psychiatre quand il traite un patient, je lui dis comme ça, hein, au cas où il y a un psychologue qui écoute le cours, après. Donc c'est tout simplement de quoi ? D'arriver à traiter une situation. Mais d'expliquer aux gens que c'est pas parce que ça leur est arrivé que ça doit forcément se passer. Sinon, ils n'arriveront jamais à conjurer l'histoire. Sinon, ils sont en train de rentrer dans la tête de leur patient que parce que tu as eu une enfance difficile, forcément tes enfants t'auront du mal à expliquer. Et c'est ça qui est rentré dans l'inconscient collectif. Pas le conscient, l'inconscient collectif. Forcément, tu dis épreuve, c'est à cause de ça que... Non, la Torah ici, à travers cet enseignement de la Mishnah, elle vient nous enseigner quoi ? Que non, aucun rapport. Aucun rapport. Au contraire. On voit très souvent les gens, quand ils vont dans des cours de Shalom Bayit, c'est une réalité. À un moment donné, les rabbins, ils ont tendance à décrire des situations, à faire des sympathiques. Le mari, comment il réagit, la femme, comment elle réagit. On en fait un peu de l'humour, mais c'est un peu dramatique, parce que les gens, quand ils sortent de là-bas, ils disent, ah, le rabbin, c'était marrant, mais tous les problèmes qu'il a décrits chez le mari, tous les hommes, ils disent, mais c'est moi. Et toutes les femmes, quand on décrit un problème chez la femme, elles disent, mais c'est moi. Ou des femmes qui sortent de là-bas, qui disent, ah, mais il a décrit mon mari. Ou des hommes qui disent, mais il a décrit ma femme. Donc à la fin, le cours de Shalom Bayit, il a un effet vicieux. C'est-à-dire, au lieu de construire les gens dans leur Shalom Bayit, on a donné des cartouches aux uns et aux autres pour se tirer dessus à la maison. Et on est parti au cours, le rabbin, il a dit. Bobo, ça arrive jamais? Bien sûr que ça arrive. Il faut faire très attention, même quand on donne un cours de Shalom Bayit. Très très attention. Il y a des halakhot qui disent normalement que quand on donne des cours de Shalom Bayit, on ne donne pas des cours de Shalom Bayit à un groupe de personnes, normalement. On attrape les gens par petits groupes pour enseigner les choses, pour être sûr d'avoir leur réaction et d'être sûr qu'ils voient comment ils comprennent les choses. Donc c'est des choses qui sont très importantes. Ou alors que quand on commence à donner des exemples, dire aux gens, c'est ce que je vais dire maintenant, de ne pas poser des questions directement maintenant pour pas que les autres puissent imaginer ce qui se passe chez les uns ou chez les autres ici. Moi je dis ça comme ça, d'accord ? Et en plus, si votre question est théorique, essayez de réfléchir que les gens ils se disent que la question n'est pas si théorique, que c'est réellement ce qui se passe chez la personne qui a posé la question. Donc on ne pose pas de question. Question, c'est à la fin. Le drave, il a un numéro. Moi, comme je dis, les rabbins, ils sont là pour être joignables. Vous pouvez m'appeler. Vous avez des questions, vous m'appelez. Maintenant, par rapport à cela, on voit quoi ? On voit en réalité, Baruch HaShem, que par rapport à tout ce qu'on est en train d'expliquer, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que s'il n'y a aucune raison, si ce n'est ma seule volonté à mes problèmes, si je veux m'en sortir, je peux. Chachamim disent, qu'est-ce qui s'oppose à la volonté d'une personne ? Sa seule volonté. Vous avez compris ou pas ? C'est bon ? D'accord. Baruch HaShem. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit en réalité ? On voit en réalité que quand Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'un mari épouse une femme, il faut arriver à se dire que si Akadosh Baruch Hu m'a coincé avec cette femme, ou il m'a coincé avec ce mari, oui, parce que des fois on arrive à se dire que c'est des choses pareilles, hein, dans tous les couples. Donc si on est coincé, entre guillemets, ensemble, c'est parce que moi j'étais la meilleure personne pour l'autre. Et que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a décidé pour moi. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand on vous dit, on va expliquer un clade qui est très important, je sais que les gens ne vont pas être très contents, mais ça va casser tout ce qu'on vous a expliqué en termes de Shalom Bayit jusqu'à aujourd'hui. D'accord ?
Excusez-moi, on voulait ouvrir la fenêtre là ?
Oui, oui.
C'est dans votre dos, c'est pas
là,
j'ai un dada. Alors vas-y, maintenant. Allez, vas-y. C'est bon, il fait chaud. Alors vas-y, viens là-bas. Alors maintenant. Il est où, Moshé ? Alors maintenant, qu'il revienne en bonne santé, Bézra. On voit comme ça, hein, pour la tzlacha de Moshé en France, qu'il nous revienne en bonne santé avec beaucoup d'argent. Et qu'il n'oublie pas mes 10%. Je sais que c'est mal, mais sur un malentendu, des fois ça marche. Alors maintenant, hein, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça ? On voit tout simplement une chose ici qui est essentielle. Ici, en réalité, il y a une chose qui est fantastique. C'est du fait de me dire, si moi je suis avec l'autre, quand on nous parle de Ezer Kenegdo, quand on parle de la femme dans Bereshit, on dit que Dieu a estimé qu'il n'était pas bon d'avoir créé l'homme seul et qu'il fallait lui créer Ezer Kenegdo, que le Ramban Nachmanide explique qu'il y a deux façons d'interpréter le verset au nom de la Gemara. Ezer Kenegdo, c'est soit la femme qui vient et qui sait soutenir son mari quand il se met dans le bien, ou s'opposer à lui quand il décide de faire le mal. C'est joli. Oui. Après, on va expliquer que la femme, c'est la sphère de la malchoute dans la maison. Que la malchoute, c'est la source de vie du foyer, parce que la femme, elle donne vie aux enfants dans le foyer. Et que c'est la source de la parnassa, qu'un mari, pour avoir une bonne parnassa, il doit rendre heureuse sa femme, etc., etc. On oublie l'histoire du Ezer Kenegdo réel. Le Zohar, il explique c'est quoi Ezer Kenegdo. Le mariage, c'est un tikkun. L'homme comme la femme ne peuvent pas vivre seuls. S'ils se marient, c'est pour se réparer. C'est pas la notion romanesque où on se marie parce qu'on s'aime et que c'est beau et qu'on atterrit tous avec le cheval blanc dans le château et on a vécu heureux jusqu'à la fin des jours. Ça n'existe pas. N'importe quel couple, c'est normal qu'il y ait des conflits. C'est normal qu'il y ait des problèmes dans l'éducation des enfants. C'est normal qu'on se dispute. C'est normal. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est rentré dans la norme, c'est que quand il y a un problème, on divorce. C'est rentré dans la norme. Il fut une époque où on ne divorçait pas comme ça. Pas aussi facilement qu'aujourd'hui. On savait que quand il y avait un problème, on devait le surmonter. Ensemble. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on comprend en réalité ? On comprend en réalité que le mari comme la femme doivent comprendre leur rôle. Pour comprendre le rôle, il faut voir ce que dit la Kabbalah là-dessus. La Kabbalah dit que dans toute vie, il y a la source de vie, d'accord ? Donc, il y a l'essence de la vie, et il y a la vie qui prend forme. Oui ? Donc il y a le Etsem et il y a la Tsoura. L'homme dans le foyer, c'est la source de vie. C'est le Etsem. Le Etsem. Comment c'est la source de vie ? On voit. Et la femme, c'est la Tsoura. À quel moment on le voit ? Au moment où un couple veut avoir des enfants ? L'homme, il est obligé d'apporter, entre guillemets, sa semence pour pouvoir avoir un enfant. Donc, il est, lui, la source de vie. Mais après, pendant les 9 mois de gestation, où est-ce que l'enfant va prendre forme ? Dans le ventre de la mère. De la même façon, si on arrive à comprendre ça, comment moi, l'homme, je deviens la source de vie dans le foyer ? Quand moi, dans la maison, je fais rentrer la Torah et la Parnassa. La Torah, c'est pas la femme qui doit la faire rentrer dans la maison. C'est l'homme. Malheureusement, comme notre génération est faible, parfois, on est obligé d'attendre des femmes, de voir des femmes faire teshuva pour ramener leur mari. En réalité, si l'homme, après le mari, il se plaint, lui, elle est trop religieuse, elle est trop ceci, elle est trop cela. Mais monsieur, si tu avais étudié la Torah, si tu avais su expliquer à ta femme la Torah, elle serait pas partie voir un jour un Rav Breslev, le lendemain un Rav Brabad, le lendemain un Rav Itaï, le lendemain un Rav avec une kippa Sruga, le lendemain avec une kippa Georgienne, et elle te rend tous les jours un nouveau chidouche autour de la même halakha. Qu'à la fin tu deviens fou. Viens attends, où est-ce qu'on habite? Oui ou non? C'est compliqué. Non mais c'est compliqué. Un jour elle va dire le lait et le fromage pour Pessah. On peut prendre que le Hercher un tel. Après elle va dire non, on doit prendre l'autre Hercher parce que j'ai demandé à un autre avis, il m'a dit ce Hercher il est pas bon. Après elle va dire non, tu sais quoi finalement, le lait et à Pessah, tous les laitages, on n'a pas le droit. Parce que la vache elle peut manger du Krabetz peut-être. Et qu'avec son sang qui fabrique le lait, peut-être qu'il peut y avoir du rabaisse dans le sang. D'accord ? C'est des chumrot qui existent, tout ce que je suis en train de vous dire. C'est une réalité. Après, comment on est, nous ? Mais monsieur, si toi, tu avais, dans la maison, rentré de la Torah et expliqué la halakha, dire, il y a différentes chitotes, mais notre minak, c'est celui-là, et on va pas bouger. On serait évité des complications. Donc, c'est à l'homme de rentrer la Torah dans la maison. Et à l'homme de rentrer la parnassa dans la maison. Maintenant, à partir du moment où l'homme il fait ces deux choses-là dans la maison, la femme avec la Torah et la Parnassa qui rentre à la maison, elle donne forme au foyer. Ouais. Non, on est d'accord. Vous utilisez, c'est les matériaux premiers en fait. C'est le Chomer Gen. Donc, elle donne forme au foyer. Ça ne veut pas dire qu'une femme elle doit rester à la maison. Il y a une mahloquette dans la Gemara entre Chachmé Bavel et Chachmé Israël. À l'époque, je j'explique, hein. À l'époque du Second Temple. C'est Tanaïm encore à l'époque. Hein. D'accord ? Époque du Second Temple. Mahloquette entre Chachmé Bavel et Chachmé Israël. Comment un homme il doit choisir sa femme ? Dans la Gemara. C'est rapporté là-bas, hein, au nom des Chachmé Bavel, qu'un homme, pour choisir sa femme, et on en parle dans le Even Eiser au nom du Shulchan Aruch, pour choisir sa femme, il doit choisir une femme qui va l'encourager à étudier la Torah. Que s'il va épouser une femme qui ne va pas l'encourager à étudier la Torah, il vaudra mieux qu'il ne se marie pas. Ça va loin, hein. Donc il faut une femme qui l'encourage à étudier la Torah. Mais Chachmé Bavé, il va encore plus loin que ça. Il faut une femme qui soit active. Je vous explique, hein. Deuxième temple, c'est, il a été détruit il y a 1958-1959 ans, hein, le deuxième temple. Ok ? Donc je vous explique, ça remonte à près de 2000 ans, cette histoire. On dit, tu dois choisir une femme active. Vous entendez ou pas ? Il y a 2000 ans. Femme active. Une femme, une businesswoman. Ce qu'il disait en Babylonie. Tu prends une femme qui a son propre business, qui gagne sa vie, et qui peut les premières années du mariage t'assumer et te permettre, toi, les premières années du mariage, de t'asseoir et étudier la Torah. Pourquoi ? Pour que, enfin, toi, monsieur, l'homme qui est venu au monde à l'envers, tu puisses te remettre les idées à l'endroit. Mais c'est même pas te les remettre, c'est te les mettre tout court à l'endroit, à travers l'étude de la Torah. Raison pour laquelle les hommes ont l'obligation à l'étude de la Torah. On voit dans les sociétés, on voit aujourd'hui avec l'évolution du mœurs que ça a tendance à changer, parce qu'avec Internet et la télévision, tout est truqué dans ce monde aujourd'hui. Mais par nature, l'homme a plus de vices que la femme, par nature. Il a un plus grand yetzer hara que la femme en général, sur certains sujets. Quand on parle d'intimité conjugale ou d'aller voir à droite à gauche, c'est plus les hommes que les femmes le problème. Donc on te dit, tu vas te mettre les idées à l'endroit. Donc madame, c'est kedaï pour toi les premières années, d'encourager ton mari, si tu peux assumer le foyer, à étudier un maximum, jusqu'à que soit la femme ne puisse plus assumer le foyer, soit la femme ne veuille plus assumer le foyer. Dans ces deux cas de figure, le mari aura l'obligation d'aller travailler. Et c'est dans Shulchan Aruch. Donc, et ça, ce qui vient expliquer sur quoi s'est reposé le Chazon Ish pour mettre en place le système des Kollel. Après, c'est un autre débat, le système des Kollel. D'accord ? Parce que réellement, un Kollelman, Alpi Alacha, à partir de sa femme, à partir du moment où sa femme ne veut plus ou ne peut plus assumer le foyer, il a l'obligation de sortir et d'aller travailler. C'est une Alacha. D'accord ? Broura, quand ils vont voir les Gdolador, les Avrichim qui ont des dettes, et tous les Gdolador leur répondent, à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas les gens qui s'essayent au Kollel qui font des dettes. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, quand ils ont un problème avec leur femme de Shlom Bayit, tous les rabbinis répondent, ta femme ne veut plus, ne peut plus, donc ça, elle peut aller travailler. L'obligation d'apprendre à ça, c'est à l'homme. Mais c'était le conseil des Chachmé Bavel. Chachmé Israël était contre. Ils ont dit, si on commence à faire ça, va arriver à un stade où les hommes, ils vont rentrer dans les bâtiments Midrash, les Kollelim, ils ne voudront plus en ressortir. Et les femmes, elles sont prisonnières de mari qui disent, mais nous, on est dans le Yetzer HaTov, nous, on étudie la Torah, c'est toi qui t'arrive. Chachmé Israël, c'est une marloquette dans la Gemara. Donc ils n'étaient pas d'accord. Ils disaient, quand tu te maries, déjà, tu dois avoir déjà ta situation. D'accord ? Et quand tu as cette situation, tu peux prendre du temps pour étudier. C'est avant le mariage que tu dois étudier un maximum. C'est Chachmé Israël. Alakha le Maasé, d'accord ? Pendant des générations, on a appliqué comme Chachmé Israël, alors que le Talmud le plus populaire, c'est le Talmud Bavli. Mais après la Seconde Guerre mondiale, le Chazon Ish a remis au goût du jour ce que faisaient nos maîtres à l'époque en Babylonie. D'accord ? Tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit en réalité ? On voit donc que le mari, il a l'obligation d'étudier la Torah, le mari, et de ramener la parnassa. S'il fait ces deux choses-là, la femme, elle va se construire, elle va tout utiliser, et elle va se construire par rapport au mari. Qu'est-ce qu'on te dit, Ezer Kenegdo ? On te dit, sache, ta femme, que ce soit une bonne ou une mauvaise épouse, c'est le Zohar qui le dit, une bonne ou une mauvaise épouse, que tu sois épanoui avec elle, ou qu'elle te mette des bâtons dans les roues. C'est elle qu'on t'a mis. Ezer Kenegdo, elle est là pour t'aider à faire quoi ? Dans un sens comme dans l'autre, à te travailler sur tes midotes, à te réparer. Vous suivez ou pas ? Donc les femmes, elles sont là pour quoi ? Pour aider les hommes à se réparer. Alors certains hommes auront le mérite d'avoir des femmes qui vont les soutenir, et ça va les aider à se réparer. Et il y a d'autres hommes que si la femme, elle est trop gentille réellement avec lui, et s'il n'a pas une femme qui lui prend la tête, il ne va pas faire, il ne va faire aucun travail sur ses midotes. Donc en réalité, les femmes, elles sont là pour nous permettre à nous de travailler nos midotes. Mais attendez, c'est pas terminé. C'est pas terminé, parce que si on croit que c'est aussi simple que ça, le Olam Haba de la femme dépend du Olam Haba du mari. C'est-à-dire que toutes les femmes qui se disent, moi je suis une tzaddika, et mon mari ne veut pas se lever à la tefila, il ne veut pas étudier la Torah, c'est son problème à lui. Après 120 ans, on va te dire, madame, pourquoi ton mari, tu ne l'as pas envoyé étudier, tu ne l'as pas envoyé prier ? Tout ton Olam Haba, il dépendait de lui. De sa tefila, de son étude, de son accomplissement de Torah en mitzvot. On voit très souvent, je parlais très crûment, mais la génération, elle a besoin de ça. Très crûment, très souvent, on a des maris qui viennent et qui disent « Ah, mais moi, j'ai du mal le matin, j'ai du mal à être épanoui. Ma femme n'est pas assez gentille avec moi. Ma femme n'est pas assez attentionnée avec moi. Ma femme ne me prête pas suffisamment d'attention, je ne suis pas motivé. » Alors, on peut se retourner vers les femmes et dire « Attends, tu te rends compte ? Bon, là, ma bâte, t'es en train de le mettre en question parce que t'as pas suffisamment d'attention vis-à-vis de ta femme. » Mais en même temps, quand on parle avec les femmes, on se rend compte que les femmes, elles donnent l'attention qu'il faut à leur mari. Mais les maris, ils en veulent toujours plus. Donc après, il faut savoir où est le juste équilibre. Les poskim disent que lorsque la femme est dans la bonne période du mois où le mari et la femme peuvent se retrouver seuls, si vous comprenez de quoi je parle, j'espère, parce qu'après, ça devient inquiétant. Donc en réalité, c'est le mari et la femme peuvent se retrouver une à deux fois par semaine, maximum. Le Rav Chaim Faladji dit plus que ça, le mari va s'enlever la lumière qu'il a dans ses yeux. Ce qui est extraordinaire. Parce que les enzymes qui sont utilisées pour créer la semence de l'homme, d'accord, c'est les mêmes enzymes qu'on utilise pour les yeux. Moi, je trouve ça intéressant. Aujourd'hui, sur le plan médical. Donc, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit en réalité, on te dit, tu t'enlèves la lumière de tes yeux. C'est ce que dit la Kabbalah. C'est-à-dire que c'est pas que la lumière de tes yeux, c'est pas que ta vue va baisser uniquement. C'est tu vas te détourner du véritable but. Le Rav Yechiya Ben Chetrit, qui est un excellent ami, oh Hachem, il dit une chose qui est très vraie. Il dit, un homme, s'il croit que sa femme, c'est un sac de viande avec des orifices qui n'est là que pour lui apporter du plaisir personnel, désolé hein, de parler de ça, il est en train de se tromper. La femme, c'est la moitié de ta neshama. La femme, tu dois discuter, dialoguer avec elle, être à son écoute. Quand tu lui parles, tu dois la laisser répéter ce que tu es en train de lui dire pour la laisser assimiler l'information. Parce que ta femme, elle est tellement angoissée en réalité d'avoir peur d'avoir mal compris ce que tu es en train de lui dire et d'avoir peur de te voir te fâcher toi en tant que mari, qu'elle a besoin de répéter pour être sûre qu'elle t'a compris parce qu'elle sait que tu es un grand nerveux. Ou comme on dit à certains, un gros mchon. Alors maintenant, on continue. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? Tu vois pourquoi tu sais c'est plus moi. Alors maintenant, hein. Merci beaucoup. Oui, j'ai compris. Alors. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit en réalité par rapport à ça, tout simplement, que c'est dommage, parce qu'on perd une dimension spirituelle entre le mari et la femme. Et on va en parler un petit peu. Ou je laisse ça pour les autres cours. Il reste 10 minutes. Alors, Bezrat Hashem, moi, il me reste 10 minutes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? On voit en réalité, Baruch Hashem, en réalité, on voit que le rapport entre le mari et la femme, c'est quoi? Ça veut dire que la femme, si une femme devient tzadika, c'est parce que dans le mari, il y a un potentiel de tzadik. La neshama de la femme dépend de la neshama du mari. Donc le tikkun de la femme dépend du tikkun du mari. Donc le olam haba de la femme dépend du tikkun du mari. Vous suivez ou pas? Je suis en train de vous dire. C'est Zohar qui le dit. Que tous les morines de la maison, les cerveaux, ce qu'on appelle aussi les disphères, les midotes, d'accord? Alors, on reprend, pour ceux qui ne connaissent pas. Le Naï, Netzach, Od, Yesod, le Chagat, Reset, Goura, Tiferet, le Chabad, Chochma, Binadat, et enfin Malchut, les disphères. C'est ce qu'on appelle aussi les morines dans une maison. Que tous les morines de la maison, que toutes les midotes de la maison dépendent du mari. Et les midotes de la femme dépendent du mari. Ça veut dire, il y a des gens en termes de Shalom Bayit qui vont dire, monsieur, en fonction de ton comportement, ta femme va se comporter, c'est ton miroir. Non. Non. C'est pas vrai. En fonction du choix de la femme que tu as fait avant le mariage, avec qui tu as épousé, à Kadosh Baruch Hu t'as donné des enfants avec elle, et tu l'as aimée, et elle t'aimait, et on arrivait à bien s'entendre. Le jour où il y a des problèmes de Shalom Bayit qui arrivent dans tous les foyers, sache que tu dois faire un travail sur tes midotes à toi, d'accord? Et qu'à travers ce travail sur tes midotes à toi, tu pourras arriver à faire élever toute la famille pour leur olam haba. C'est pas forcément que ta femme va changer. C'est ça que beaucoup d'hommes se trompent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent et qui rentrent la psychologie et la psychiatrie dans les cours de Torah pour le Shalom Bayit. Ça n'a aucun rapport. Quand moi je travaille mes midotes, j'ouvre les portes du Olam Abba à ma femme. Et même si ma femme ne s'adapte pas, elle dépend de moi. Elle va rentrer au Olam Abba avec moi. Oui, bien sûr. Vous avez une bonne ou pas?
Comment?
C'est pour nous ou pas?
Oui.
Non, mais c'est pas si bien que ça pour vous, les femmes. Mais c'est pas grave. Alors maintenant, on va continuer. Ça veut dire quoi? Non. C'est ça tout le truc. C'est pour ça que c'est pas bien pour les femmes. Ça veut dire que les femmes, Dieu, il leur a fait un drôle de coup. Il les a coincés avec nous. Alors, on continue.
Une femme, par ses bonnes actions, elle l'élève.
Une femme, quand elle a des bonnes actions, je vous explique la différence. Quand la femme elle a des bonnes actions, elle va forcément avoir une influence sur le mari et les enfants. Mais si une femme trouve le moyen et la force, en ayant épousé un homme, d'être une tzadika, d'arriver à faire des bonnes actions, alors que le mari n'est pas religieux, entre guillemets, c'est que dans la neshama du mari, il y a un potentiel de tzadika. Tu veux? Ouais. D'accord. Donc, Baruch HaShem. Et que c'est à travers la femme que c'est en train de s'exprimer. Comprenez ou pas? Moi, j'ai fait l'expérience. J'ai eu des couples comme ça, pas religieux. Le mari pas religieux, la femme qui est devenue super religieuse. Les gens disent, attends, mais regarde, la femme, la pauvre, c'est une syndicat, elle se couvre la tête, elle est religieuse, et tout, le mari, il n'y a aucun rapport. Et le mari, quand on lui parle, c'est quoi le mari? Le mari, s'il entend qu'il y a un orphelin, ou qu'il y a un soldat dans le besoin, ou qu'il y a quelqu'un qui a le moins de problèmes, il va courir pour faire du chesed. Pourtant, il n'a pas l'air religieux, monsieur. Donc, il y a un potentiel de tzadik. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne doit pas juger quelqu'un par rapport à son apparence, ou même par rapport à ses maasim, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut sortir de quelqu'un et de sa façon de se comporter, on ne sait pas comment c'est interprété dans le ciel. Ça, c'est pour ça que la maasim est très, très compliquée. Très, très compliquée. Donc, en réalité, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc que nous, quand on fait du travail dans nos midot, on est en train d'ouvrir les portes de Olam Haba pour tout notre foyer, notre famille, on prépare le terrain pour nos enfants aussi. Une femme, quand elle vient et se renforce en Torah au Mitzvot, c'est grâce au potentiel dans les Shana de son mari, mais aussi grâce à cela, elle va permettre à ce potentiel-là de se rapprocher de la Torah chez son mari. Que le mari, à la fin, il va finir par s'élever. Et qu'à travers les prières qu'elle fait pour son mari et ses enfants, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'elle fait la femme quand elle allume les nerfs de Shabbat? Elle fait un yiratson pour son mari et ses enfants. On dit que les tfilotes de la femme, elles sont importantes. Pourquoi on fait autant de yiratson pour la femme, pour son mari, alors que dans la tfila, on peut chercher dans les sidourim, il n'y a pas beaucoup de yiratson pour le mari, pour sa femme. Pourquoi? Parce que la femme, quand elle prie, elle ne prie que pour elle. Quand elle fait le yiratson pour son mari et ses enfants, elle rajoute à son mari et ses enfants. Le mari, quand il prie systématiquement pour sa femme et ses enfants, il n'a pas besoin de rajouter un yiratson. Suivez ou pas? Hein? D'accord. Alors d'accord. On continue le truc. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit donc que, un, le système de cause à effet, il faut oublier. Que, deux, si ma femme me cause des problèmes, c'est parce que je suis la meilleure personne dans ce monde pour arriver à la réparer. Si mon mari, moi, il me fait des problèmes en tant que femme, c'est que je suis la meilleure femme dans ce monde pour arriver à le réparer. Si mes enfants ont des problèmes, c'est que je suis le meilleur parent au monde pour le réparer. À quoi les tout-bas? C'est-à-dire, je suis là où je suis avec les membres de ma famille, parce que je suis la meilleure personne au monde pour arriver à m'en occuper. C'est comme ça que dit Zohar.
On n'est pas censé être responsable des actes des enfants.
Alors je comprends la question. Je comprends. Mais admettons que les enfants, hein, vous avez des enfants. Baruch HaShem, Dieu bénisse, comme on dit chez nous, five. Alors maintenant, par rapport à ça, on voit simplement, il y a des enfants quand ils ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Après, les enfants, quand ils ont 18 ans, ils sont encore à la maison. C'est une autre histoire. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, ça veut dire que quand ils sont petits, on les éduque. Mais arrive à un moment donné à un âge où déjà, à partir de 13-14 ans, ça commence. Si on n'a pas bien préparé le terrain quand ils étaient petits, si on n'a pas su éduquer les enfants comme il faut quand ils étaient petits et développer un rapport sain entre nous et nos enfants, à partir de l'âge de 13 et 14 ans, ils nous font la crise d'adolescence. Quoi qu'il arrive, parce que les hormones vont jouer des tours. Chez les filles, à partir de 11 ans, 11 ans et demi. Chez les garçons, 12-13 ans. D'accord? Leur jouent des tours. Mais après, c'est une explosion nucléaire. Dans la maison. Avec les enfants, ça ne va plus tourner. On n'a plus à communiquer avec eux. Alors après, on peut dire on est responsable des actes. Après, est-ce qu'on peut être responsable d'un enfant de 16-17 ans qui décide de faire des choses qu'on lui a toujours dit que c'est pas bien, qu'on n'a pas le droit? Alors que les parents sont des bons parents. Les parents sont des bons parents. C'est compliqué, vous comprenez ce que je
veux dire. On est censé nous-mêmes montrer l'exemple aux enfants.
Hein?
On est censé nous-mêmes montrer l'exemple à nos enfants.
Alors moi je dis.
J'ai l'impression qu'on essaie de. Je pense pas, hein, mais j'ai l'impression qu'on dédouane un peu les parents de ce que les enfants deviennent. Et
pour moi, mais pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit. Alors refais-le-moi. D'accord? Ce que j'ai dit, c'est quoi? C'est que si mes enfants ont des problèmes, je suis la meilleure personne au monde, moi, pour arriver à les aider à régler leurs problèmes. que Dieu les a envoyés dans mon foyer parce que je suis le seul à pouvoir les parler.
Donc il faut éduquer les parents.
Il faut que les parents éduquent leurs enfants.
Donc les parents doivent aussi être éduqués.
Donc ils doivent comprendre. On a souvent des parents qui baissent les bras, qui disent comment je vais gérer. Non, c'est pas comment tu gères. Tu peux appeler un RAF, tu peux appeler un spécialiste d'éducation qui va t'expliquer comment tu dois faire, mais tu dois pas rentrer dans le piège de dire est-ce que vous pouvez venir à la maison parler avec les enfants. C'est toi la meilleure personne au monde pour appliquer les choses. Et pour éduquer. C'est ça qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de dire autre chose. C'est pas en train de dire advienne que pourra. Au contraire, pas du tout. En train de dire qu'à travers le travail de tes midotes, tu crées un potentiel chez ta femme et tes enfants pour accéder au Olam Haba. Tu comprends ce que je veux te dire? Ta femme, elle va rentrer directement dans le Olam Haba grâce à tes midotes, toi, monsieur Menaché. D'accord? Mais en plus de ça, ce qui est extraordinaire, c'est que tes enfants, tu vas créer un potentiel et des sruyotes chez eux pour leur permettre de faire une plus belle tichoua quand ils seront arrivés à l'âge adulte. Par rapport à Avodat Hashem que tu fais. Donc ça dépend de toi. Avraham Avinu, donc on est exactement en train de dire la même chose, pas avec les mêmes mots. Tu vois, on a réussi à communiquer. C'est un exemple concret de ce qui peut se passer dans beaucoup de foyers. On peut dire exactement la même chose, mais comme on n'a pas le même vocabulaire, on ne s'est pas forcément compris. Mais si on ne s'énerve pas et qu'on discute, on arrive à se comprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit justement, Avraham Avinu. Chachamim, ils nous disent Avraham Avinu, et dans la Torah, c'est marqué que ça a été un père exemplaire pour Yitzhak. Exemplaire. Donc attendez, moi, on pose la question. Je regarde toutes les parachutes avec Avraham et Yitzhak. Avraham, il a parlé deux fois à son fils. Hein. Il lui dit « Ene béni et bo béni ». Et c'est tout ce qu'il dit, hein. Il dit deux fois « mon fils ». Il ne lui parle pas. Chachamim dit la extraordinaire éducation qu'il a donné à Avraham et Yitzhak. On dit pourquoi? Parce qu'Avraham, il a donné un exemple. Il a vécu par exemple. Il était exemplaire dans sa façon de se comporter. Ben ouais. Non? Moi, je dis ça comme ça. Ouais, moi, je dis ça comme ça. Il y a des parents qui viennent me voir, ils disent « Mes enfants, ils vont pas dans des cours de Torah. » Je dis « Ok, mais pourtant, nous, on va dans des cours de Torah. » Je dis « Mais tes enfants, ils te voient pas dans le cours de Torah, comment tu es. » Donc, ouvre un livre de Torah à la maison, tu verras que tes enfants, ils auront envie. S'ils prennent l'habitude de te voir ouvrir. D'accord? S'ils prennent l'habitude de te voir le Shabbat, au lieu que simplement de boire la boucha, pour ceux qui boivent la boucha ou la vodka ou je sais pas quoi, ou le vin, d'accord, de faire même pas un divrei Torah, de parler des sujets de la semaine, de faire le tri, de critiquer qui on doit critiquer, de parler de qui on doit parler, de qui on a l'habitude, un peu de vanne, un peu de rigolade, un peu de chant, ok? Et puis il n'y a pas beaucoup de divrei Torah, pour ne pas dire qu'il n'y en a pas. Comment un enfant qui grandit là-dedans, il va être motivé à faire le Torah au Mitzvot? Quand pour lui, le Shabbat et la table du Shabbat, c'est la boucha, la damrout et le kif. Alors que tous les rabbinim, ils avaient dit, en Tunisie, au Maroc et ailleurs, hein, « Dat mouch mekla ». La religion, c'est pas la nourriture. Ça fait bien de le dire en anglais. Alors maintenant, on continue. Par rapport à ça, hein, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit en réalité tout simplement que dans le rapport homme-femme, donc le Olam Haba de la femme dépend du mari. Du mari. Et toute la force de la femme, c'est quand une femme, elle pense qu'elle est bien, elle doit comprendre que quand elle trouve des défauts chez son mari qui ne lui convient pas, qu'elle sache que ce qui est bien chez elle, à partir du moment où elle a épousé cet homme, c'est grâce à lui qu'elle est bien comme ça. Parce que c'est un potentiel dans sa neshama. Et que c'est grâce à lui qu'elle est devenue comme ça. Donc rien que pour ça, elle doit l'aimer. Au lieu de s'énerver. Non? Vous avez compris ou pas? Mais Litzara, il nous fait le coup de nous énerver. On est à l'envers. Mais ma femme, je l'aime beaucoup. Mais attendez, on continue. Mais c'est une réalité. En réalité, c'est fantastique. C'est-à-dire, on voit qu'en réalité, par réflexe, on a une réflexion dont la racine, c'est le réflexe. Donc, notre réflexion nous joue des tours. C'est un réflexe. D'accord? On réfléchit mal. Mais très, très mal. On ne voit pas le truc comme il faut. Si moi, je comprends en tant que femme que mon comportement, d'accord, il dépend tout simplement du comportement, pas du comportement, mais de l'échama de mon mari. Que chez mon mari, il y a des choses qui m'énervent. Je sais que je me répète, mais c'est important de le dire. Ce qui est bien chez moi, et les choses grâce auxquelles je suis en train de me rendre compte que ça ne va pas chez mon mari, c'est le potentiel de l'échama de mon mari. Donc, et je peux arriver à réveiller ça chez lui. C'est pour ça que la femme a besoin de parler de ça avec son mari. Pas parce que ça l'agace. Parce que quelque part, c'est inné, sa l'échama sait que elle, ce qui est bien chez elle, c'est grâce à son mari. Donc ce bien-là, il est possible de le voir chez le mari. Donc et si le mari comprend que la femme, elle est en train de lui faire un reproche, parce qu'il y, il y a quelque chose qui lui manque. Et qu'en réalité, ce qui est bien chez la femme et les qualités qu'elle a, très souvent, j'ai des maris qui disent, moi, je défends ma femme, hein. Elle est très ordonnée, etc. Mais toi aussi, tu as un potentiel d'ordonnée. Tu as ce potentiel-là. Et que si elle te fait ce reproche-là, c'est simplement parce que vos deux néchamotes, elles sont liées et qu'il y a ce potentiel-là chez toi, commence à faire ce travail-là chez toi. Et tu verras que tes problèmes de shlombaït, ils vont très vite disparaître. Ça, c'est aussi simple que ça. C'est joli ou pas? T'as kiffé ou pas? Bon, alors on continue. Alors maintenant, hein. Non, parce que moi j'ai kiffé. Alors maintenant, hein. Baruch HaShem, par rapport à ça, on va terminer là-dessus, avec l'aide de Dieu, parce que je sais qu'à Eli, on se couche tôt. Alors, c'est pas ma faute. Vous pouvez comme des poules. Alors maintenant, hein, par rapport à ça, moi j'ai peut-être des bras, je ne dors jamais là-bas. Alors, c'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on voit en réalité? Et on va terminer là-dessus, mais là, la chaîne. C'est qu'en réalité, le rapport entre le mari et la femme, il est d'une puissance extraordinaire. Et on le verra la semaine prochaine, le prochain cours mercredi, on verra pourquoi la chambre à coucher, on appelle ça le Kodesh à Kodeshim. C'est-à-dire le rapport entre le mari et la femme, il est tellement important aux yeux de Dieu qu'il est au-dessus de tout. Au-dessus de la tfila, au-dessus des corbanotes, au-dessus du Beth Amidash, au-dessus de tout. Le rapport, ça crée tel kedusha le rapport entre le mari et la femme, que ce soit dans l'intimité conjugale ou dans le rapport qu'on est en train de discuter ou le shalom bayit qu'on est en train de faire, que ça rajoute de la shrina dans le monde. Chaque foyer qui se crée dans le clan Israël, la Gemara me dit quoi? C'est une nouvelle pierre à l'édifice du Beth Amikdash dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de régénérer la présence divine ici-bas, à travers le shalom bayit. Shalom bayit, c'est quoi? On le verra en détail la semaine prochaine, mais juste pour vous dire. Pourquoi on emploie le terme de shalom bayit? Alors bien sûr, on va dire la paix des ménages, hein, la paix du foyer, c'est facile. C'est pas du tout. Shalom, c'est un des noms de Dieu. Shalom bayit, c'est quoi? C'est que le mari, c'est Neshama, la femme, c'est notre Neshama. Quand les deux, ils passent ensemble sous la choupa, Akadosh Baruch Hu, il fait de ces deux Neshamot deux demi-Neshama pour les relier, mais il vient avec une troisième Neshama pour les relier. Comment s'appelle la troisième Neshama? Ça s'appelle Shalom. C'est Dieu qui vient entre le mari et la femme. Shalom. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on dit Shalom Bayit. C'est quoi Shalom Bayit? C'est d'arriver à garder la plénitude et la perfection dans la maison qui est Dieu. C'est la présence divine dans la maison. Bezrat Hashem, on verra ça la semaine prochaine. Et on verra comment de cela on arrive à dire que la chambre à coucher du père et de la mère, des parents, c'est le Kodesh HaKodeshim, le saint des saints, le Kodesh HaKodeshim du foyer. D'accord? Bezrat Hashem. Voilà, bonne soirée et à très bientôt. Ce fut un plaisir.